17h42 sur France Culture. Fallait-il retirer Charles Maurras du livre des commémorations? On va se poser cette question. On va vous présenter aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui était Charles Maurras et en quoi il peut y avoir controverse sur sa contribution intellectuelle au nationalisme intégral et peut-être aussi à d'autres formes de proto-fascisme. C'est d'ailleurs une polémique qui rebondit ce matin dans Libération, puisqu'il y a eu une pétition d'historiens, de scénaristes qui considèrent qu'il n'aurait jamais fallu le mettre parmi les personnes à commémorer. Pour en discuter, je suis en compagnie de Christophe Prochasson. Bonjour. Vous êtes historien, président de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez notamment publié les grandes dates de la République de 1792 à nos jours. Et puis, à côté de vous, Olivier Dard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université. Vous avez publié le dictionnaire du conservatisme et surtout une biographie de Charles Maurras, le maître et l'action chez Armand Collin. Et c'est vous qui aviez rédigé la notice de Charles Maurras dans un livre qui est le livre des commémorations, où il est question donc de tous les personnages que le centre des monuments nationaux a choisi de commémorer cette année. Il y en a d'autres d'ailleurs. Il y a aussi l'écrivain Jacques Chardonne, qui est un écrivain collaborationniste. Il y a aussi Simon de Montfort, qui est l'instigateur des croisades, et des personnages moins controversés. Pour débuter, nous avons choisi de vous faire entendre une archive. Il s'agit d'une radioscopie, donc de Jacques Chancel, bien sûr. Une radioscopie de Lucien Rebattet, qui est un écrivain collaborationniste. Et vous allez l'entendre, c'est une question posée par Jacques Chancel en 1969 à Lucien Rebattet montre à quel point les mentalités ont changé depuis.
Je vais vous rappeler quelques-unes de vos phrases. Ça vous ennuie. Vous allez m'arrêter parce que justement elles sont importantes et vous pouvez avoir changé. Vous permettez, je vous les donne.
Allez-y.
L'espérance pour moi est fasciste.
Oui. Écoutez, je ne peux pas dire que j'ai tellement changé à ce point de vue-là. Parce que si alors, il va nous falloir que nous montions très haut dans les digressions, n'est-ce pas? Je ne suis pas du tout, en principe, hostile à la démocratie, moi. Je suis pas du tout, je suis républicain. Mais il y a une question de latitude, vous comprenez? La démocratie, ça marche très bien en Suède, un pays aseptique, protestant, puritain, enfin puritain autrefois. Ça marche, là. Moi, je trouve très bien le socialisme à la suédoise. Mais en dessous d'une certaine latitude, ça ne marche plus.
Un extrait complètement inimaginable aujourd'hui de Lucien Rebattet, cet écrivain collaborationniste à qui Jacques Chancel donc demandait si l'espérance était fasciste, plus exactement une citation donc de Rebattet. Votre réaction, Christophe Prochasson, à ce que vient de dire à la fois Lucien Rebattet et puis à cet étrange échange?
Vous voyez à mon visage, je suis un peu interdit après avoir entendu cela. Ce qui me frappe, c'est que vous disiez 72...
69.
69, donc c'est encore pire d'une certaine façon, un an après 68, que quelqu'un puisse assumer le fascisme aussi explicitement, certes en l'amendant, en disant qu'il est toujours républicain. D'ailleurs, Olivier Dard pourrait le dire, il y a eu cohabitation entre contrairement à ce qu'on peut penser, entre la République et le fascisme chez certains auteurs, et même au-delà, et même la Révolution française d'ailleurs. Mais tout de même, se dire fasciste en 69, juste après 68, moi c'est la première réaction qui m'étonne. Il y a, comme vous le disiez, il y a quand même là une perspective à restituer qui est assez troublante.
Votre réaction, Olivier Dard, et puis peut-être aussi évoquer les liens justement entre Lucien Rebattet et Maurras pour qu'on arrive donc à ce personnage que nous étions censés commémorer aujourd'hui, cette année.
Oui, alors la date de 1969 est importante parce que, en fait, Lucien Rebattet est invité par Jacques Chancel à ce moment-là parce qu'il vient de publier son Histoire de la musique qui rencontre un véritable succès et il s'apprête, ça a pris un petit peu plus de temps, à republier son livre le plus célèbre du point de vue politique et polémique, Les Décombres, le grand succès de 1942, autour d'une centaine de milliers d'exemplaires vendus, qu'il réédite donc chez Pauvert au début des années 70, livre qui a été réédité il y a peu de temps en collection bouquins chez donc avec une préface de Pascal Horry. Alors, ce qu'il est intéressant de noter par rapport à Lucien Rebattet, il dit je suis républicain. Non, Lucien Rebattet n'était pas spécialement
un républicain. Il avait beaucoup de défauts, mais il n'était pas républicain.
Voilà, il n'était pas républicain. Il venait de l'Action française, dans laquelle il a milité dans laquelle il a écrit pendant des années. Simplement, il avait rompu effectivement avec cette Action française au nom du fascisme. Au début de la guerre, pour s'engager dans la collaboration, et dans les décombres de 1942, il règle très violemment son compte à Charles Maurras, dans un texte qui est à la fois sans doute un des plus beaux portraits qui ait été dressé de Maurras, le Maurras qui travaille à l'imprimerie, etc., etc., et en même temps un règlement de compte politique terrible, puisque le chapitre s'intitule « Au sein de l'inaction française », et c'est parce qu'il y a inaction française que Rebattet s'engage vers le fascisme, et il reproche également à Maurras toute une série de choses, en particulier ce qu'il appelle son aboulie. Il a des formules terribles. Hein.
Monarchie. Aboulie, c'est un terme peut-être qui n'est pas clair. Sa passivité.
Sa faiblesse, sa passivité. Alors, ce qui est évidemment intéressant, quand on connaît évidemment Charles Maurras, quand on connaît sa capacité polémique en matière d'écriture, mais tout le problème, sans doute, de Maurras et de l'Action française, c'est au fond ce contraste, pour ne pas dire parfois cet abîme, entre la violence du ton, la violence du propos, notamment dans le quotidien, et pour ses militants, et notamment pour ces jeunes militants dont a fait partie Lucien Rebattet, le sentiment que tout ça ne débouche pas sur ce qu'il souhaiterait, et en particulier sur un renversement de la République dont nous parlions.
Alors, il faut présenter Charles Maurras, et on va voir que cette présentation, elle pose problème, et c'est à partir de là qu'on peut savoir si il fallait, oui ou non, le commémorer. Christophe Prochasson, peut-être pour le rappeler déjà en deux dates, il est né en 1868 et il est mort en 1952, donc il a eu l'occasion de revenir sur ce qu'il avait fait pendant la guerre, ce qu'il avait pensé et écrit. Votre présentation de ce personnage.
Bah, écoutez, c'est un personnage qui, d'où la polémique, représente plutôt une face sombre, puisqu'il représente d'abord l'antisémitisme, l'hostilité à la présence des étrangers sur le territoire, sa fameuse dénonciation des quatre États confédérés, que sont les protestants, les métèques, comme il disait, c'est-à-dire les étrangers, les francs-maçons et les juifs. C'est aussi quelqu'un qui a laissé la mémoire d'avoir été l'inspirateur de Charles Maurras. Et puis, c'est le théoricien du nationalisme intégral, c'est-à-dire d'une doctrine extraordinairement rationalisée. C'est la raison en politique, Charles Maurras, suite à une construction intellectuelle subtile, débouche sur la nécessité d'un retour à la monarchie. En ce sens, c'est le penseur anti-républicain par définition. C'est ce qui a sans doute suscité le trouble, avec tous les autres éléments que j'évoquais, de ceux qui ont contesté la présence de Charles Maurras dans le livre des commémorations.
Et dans ce livre des commémorations, vous dites, Olivier Dard, effectivement que Charles Maurras était hostile aux Juifs. Il y a un mot qu'on ne trouve pas dans votre notice, c'est le mot antisémite, même si vous dites qu'il a été anti-Dreyfusard. Et je me dis, alors sauf erreur de ma part, hein, je me dis que peut-être si vous aviez écrit ce mot, il aurait été peut-être plus simple, non pas d'assumer cette commémoration, mais au moins on aurait eu les pièces du débat parce que Maurras était un théoricien, peut-être n'êtes-vous pas d'accord, de l'antisémitisme d'État.
Oui, ça je suis entièrement d'accord, mais simplement, alors effectivement, mais quand j'écris « Anti-Dreyfusard, il dénonce le syndicat de la trahison, entre guillemets, que symbolise l'anti-France, entre guillemets, celle des quatre États confédérés, juifs, francs-maçons, etc., etc. » Bon, évidemment, il va de soi, pour moi, que son antisémitisme n'est pas contestable, son antisémitisme...
C'était implicite.
Oui, enfin là, franchement, j'ai écrit une biographie complète sur Maurras, je crois qu'il y a...
Je ne vous fais pas de procès en dissimulation.
Je veux juste savoir
pourquoi ce mot n'y est pas.
Bon, écoutez, je ne sais pas. J'ai tout simplement envie de vous dire, je ne sais pas, parce que en réalité, après, je reparle effectivement des années 40. Ce qu'il faut bien comprendre, pour le coup, dans l'antisémitisme de Maurras, c'est deux ou trois choses. D'abord, c'est que c'est un antisémitisme ancien, quasi originel, c'est-à-dire qu'il démarre, bon, Maurras naît effectivement en 1868, il va s'engager en politique un peu plus tard, vers, il commence un peu à 20 ans, mais surtout à la trentaine, mais dès son engagement en politique, il est un antisémite convaincu, avec un maître à penser chez lui, qui fut Édouard Drumont. Édouard Drumont, le grand auteur de la France juive, bien connu aujourd'hui parce qu'il y a eu des travaux sur lui.
Peut-être rappeler qui il est et rappeler à quel point la France juive a été un immense best-seller.
La France juive, effectivement, a été, donc un livre de 1886, a été un immense succès avec des dizaines de rééditions et que prétend montrer Édouard Drumont dans la France juive, dans ses deux volumes, il prétend montrer en particulier comment, au fond, la France serait, à ce moment-là, submergée par une forme d'invasion juive, en particulier par une domination juive qui serait une domination de nature économique. Et il y a, effectivement, dans l'antisémitisme maurrassien, tout cet héritage-là. Ce qu'il n'y a pas, en revanche, et c'est très important par rapport au national-socialisme, c'est que Maurras va être un antisémite d'État, on pourra y revenir, mais il se méfie également beaucoup de toutes les théories racialistes de son temps, notamment Vacher de la Pouge et beaucoup plus tard Georges Montandon. Alors pourquoi il s'en méfie?
Là aussi, il faut rappeler qui était Montandon. Voilà. En fait, ce sont des théoriciens du racisme biologique.
Du racisme biologique. Et Maurras les récuse. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que leurs théories, en réalité, viennent d'Allemagne et Maurras, depuis les origines, est également un germanophobe convaincu. Ce qui va évidemment déterminer sa définition du nazisme. Et puis, autre élément dans cet antisémitisme maurrassien, qui est important, il est durable, bien sûr, ancien, mais il l'est aussi, et on s'en rend compte, j'en parle dans ma biographie de Maurras, à propos de sa correspondance avec Barrès. Maurras sent très bien, on est à ce moment-là en 1894-1895 dans la cocarde, donc on est très très en amont de Vichy et de tout le reste, il sent très bien que l'antisémitisme peut être également porteur sur le plan de l'opinion. Ce qui renvoie à ce que vous disiez, évidemment, par rapport à l'écho de la France juive. Ce qui explique que dans la prose de Maurras, et en particulier dans sa prose quotidienne, on va trouver, alors notamment au moment de l'affaire Dreyfus, que Christophe Prochasson connaît fort bien, et ensuite, bien sûr, toute une série d'articles très violemment antisémites.
Votre réaction, Christophe Prochasson.
Il y a deux choses sur lesquelles il faut évidemment s'arrêter. C'est que l'antisémitisme, même s'il n'est pas de nature biologique, au sens où il se développera ultérieurement, il ne d'ailleurs l'est chez peu de gens à ce moment-là, c'est le cœur de la doctrine.
Sauf chez Céline, par exemple.
Oui, chauffe Céline. C'est le cœur de la doctrine, c'est, dit-il, c'est une providence, en quelque sorte, cet antisémitisme pour lui, pour donner de la cohérence à sa doctrine. Donc, ce n'est pas un élément superfétatoire ou supplémentaire à une doctrine, non, c'est bien au cœur. Et puis, deuxièmement, Olivier Dard vient de le rappeler, évidemment, c'est le contre-coup de l'affaire Dreyfus, qui a été extrêmement important et qui, d'ailleurs, lui permet de donner naissance à, on n'en a pas assez parlé, mais à la naissance de ce journal, l'Action française, dont il est le créateur, l'inspirateur, le théoricien, avec d'ailleurs une certaine flamme théorique qui est tout à fait remarquable. Et puis, il y a un dernier élément, si je peux me permettre, qu'on n'a pas évoqué, mais qui est important dans l'histoire intellectuelle de Maurras, c'est son rapport à la religion et au catholicisme. Évidemment, c'est un penseur catholique, mais là, encore une fois, où on voit la place de la raison chez Maurras, c'est un catholique de raison, en quelque sorte, et non de sentiment et à peine de foi, dirais-je, ce qui lui vaudra quelques problèmes en 1926 avec la papauté, puisque l'Action française sera condamné par le pape.
Alors je vais vous lire un extrait de la prose de Maurras justement sur la question juive. « On ne peut pas parler des juifs, écrit Maurras, qui ont combattu ou des enfants de ceux qui sont tombés en des termes généraux, qui confondraient tout. Les distinctions sont nécessaires, on les fera, mais on les fera au flambeau de cette évidence. L'Europe est dévastée, la paix intérieure de tous les peuples est menacée par des bandes de juifs. » Ça, c'est en 1920 qu'il écrit ça à Maurras. Et je me suis posé la question suivante, Olivier Dard. Je me suis dit, finalement, si vous n'aviez pas mis ce mot d'antisémitisme dans la notice que vous avez consacrée à Maurras, c'est peut-être parce que vous souhaitiez, de manière implicite, faire une distinction entre l'anti-judaïsme de Maurras, en tout cas, le fait qu'il n'était pas exterminationniste délibérément, qu'il était, disons, dans la tradition classique de l'antisémitisme catholique français.
Alors, il est dans la tradition d'un antisémitisme français, mais encore une fois, bon, ce mot, c'est un oubli, dont acte. En revanche, ce qu'il est intéressant de noter dans ce que vous dites, c'est que cet extrait nous montre l'évolution aussi, à l'occasion de la Première Guerre mondiale, de l'antisémitisme d'Action française, avec l'émergence de ce qu'on a appelé le juif bien-né. C'est-à-dire, au fond, celui qui a pu, par le prix du sang, gagner en quelque sorte son droit de faire partie de la communauté française. Et ça, évidemment, c'est extrêmement important. Ce qui, d'ailleurs, m'amène à souligner deux choses. D'une part, effectivement, Maurras a toujours été antisémite, mais l'antisémitisme a connu, j'allais dire, des phases. On considérait d'ailleurs, les travaux de Ralph Shore l'avaient bien montré aussi, que
Ralph Shore, qui
est un historien, avait montré que l'antisémitisme en France, d'ailleurs, ne disparaissait pas, évidemment, mais s'atténuait dans les années 20 pour rebondir pendant les années 30. Et là, à l'Action française, c'est tout à fait net. Mais Maurras n'est jamais allé aussi loin, évidemment, que Barrès, qui a pu écrire, pendant la guerre, les diverses familles spirituelles de la France. Maurras n'est jamais allé aussi loin.
Votre réaction, Christophe
Brochasson? Oui, je pense que le mot que vous utilisez, exterminationniste, n'a pas véritablement de sens avant l'extermination proprement dite, et surtout avant l'entre-deux-guerres. À la fin du 19e siècle, c'est-à-dire cet antisémitisme français est un antisémitisme, je dirais presque culturel, c'est-à-dire d'exclusion, mais pas d'extermination. Alors, on cite parfois des phrases tout à fait terribles qui sont apposées à ce qu'on appelle le monument Henri, c'est-à-dire une pétition anti-Dreyfusarde visait évidemment les Juifs et qui a des formules qui ont une résonance tout à fait particulière aujourd'hui quand on lit, par exemple, pour les mettre au four ou pour les brûler, etc. Mais évidemment, ne commettons pas d'anachronisme en pensant que Olivier Darle y faisait allusion, que la Première Guerre a joué un rôle évidemment très important dans l'histoire de l'antisémitisme, dans la violence politique qui s'institue à ce moment-là et qui du coup donne à l'antisémitisme évidemment une dimension beaucoup plus tragique.
On peut aussi rappeler, même si c'est une évidence, que Pétain a piétiné évidemment la doctrine des Juifs bien. Et on vous retrouve aux environs de 8h20, Christophe Brochasson. Je rappelle que vous avez notamment écrit une contre-histoire de la Troisième République, et Olivier Darle, vous avez notamment écrit un livre, Charles Maurras, le maître et l'action. On va continuer à évoquer la question donc de cette commémoration, peut-être évoquer aussi le fait qu'il faudrait, nous dit ce livre des commémorations, commémorer la mort de Jacques Chardon en 1968, et puis si on en a encore un peu le temps, celle de Simon de Montfort qui lui était l'un des instigateurs de la croisade contre les Albigeois. Il est 8h sur France Culture.